20 часов в Париже.
Accent du monde. Philippe Le Caplin.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Comme tous les vendredis soirs, nous allons revenir sur les temps forts de l'actualité de la semaine avec le regard des rédactions du Monde de Radio France Internationale. Ce soir, avec Laetitia Constant de la rédaction brésilienne.
Buenas noches.
Pour la rédaction hispanophone, Raphaël Moran.
Buenas tardes.
Et Miguel Martins de la rédaction lusophone. Bonsoir à vous tous. Alors, il vient d'en être question dans le journal. Theresa May reste à la tête du gouvernement britannique malgré le désaveu électoral d'hier lors des élections législatives anticipées qu'elle avait convoquées. La première ministre britannique avait en tête d'obtenir une majorité claire en vue de négocier le Brexit. Eh bien, patatras. D'ailleurs, selon un interlocuteur que vous avez joint à Londres pour la rédaction en portugais, Miguel Martins, ce n'est pas finalement le Brexit qui a été au cœur de la campagne électorale.
En effet, Philippe, là, il s'agit de Bernard do Ivo Cruz. Il était enseignant à Londres. Il est également président de la Chambre du commerce portugaise au Royaume-Uni. Je vous propose de l'écouter.
Mesmo antes dos dois atentados, do atentado de Manchester e depois do atentado de Londres, a campanha já.
Alors, que vous dit-il?
Il nous disait que bien avant les deux attentats, donc celui de Manchester puis celui de Londres, la campagne portait essentiellement sur des questions de politique intérieure, telles que le système de santé, les retraites, l'économie, etc. Puis, avec les deux attentats, et là, normalement, c'est le Parti conservateur qui, traditionnellement, se soucie le plus des questions de sécurité. Alors que Theresa May a été ministre de l'Intérieur par le passé, 6 ans durant, et elle a fini par se retrouver accusée d'avoir gelé des financements pour la police. Donc, la campagne que l'on s'attendait axée autour du Brexit, et un peu même le sacre de la majorité de la chef de l'exécutif, a fini par s'avérer bien plus tonique et avec une participation accrue des partis de l'opposition.
Alors Miguel vient d'en parler, Raphaël Moran, ces élections interviennent quelques jours après les attentats de Manchester et de Londres. Ces actes terroristes ont forcément eu un impact car la Grande-Bretagne en vient à se poser la question des méthodes et des moyens de la police.
Oui, trop, c'est trop, c'est ce qu'a déclaré la première ministre Theresa May le 5 juin, donc c'était 2 jours après ce 3e attentat en 3 mois qui a frappé le Royaume-Uni. En fait, la Theresa May considère que son pays a été trop tolérant avec les extrémismes. Elle a proposé, c'était avant les élections, d'alourdir du coup les peines de prison pour les délits liés au terrorisme. Et elle souhaite aussi lutter plus durement contre la propagande extrémiste sur Internet. Il faut savoir que déjà en novembre dernier, le Royaume-Uni s'est doté d'une loi controversée en la matière. Elle permet aux autorités d'obtenir l'historique des consultations d'un site pour un utilisateur durant 1 an. Et ceci auprès des entreprises d'Internet. Donc apparemment, des nouvelles mesures devraient être prises, Philippe.
Par Theresa May, donc, qui reste au gouvernement et qui va gérer ce Brexit, Miguel Martins, quoi qu'il en soit, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne va être mis en application. Et même peu de voix se lèvent désormais pour contester ce Brexit.
Absolument, voilà un constat du président de la Chambre du commerce portugaise au Royaume-Uni. Je vous propose de le réécouter.
Houve uma sondagem que há uns tempos feita no Reino Unido que mostrava que mesmo as pessoas que votaram a favor da continuação do Reino
Unido. Bernardo Ivo Cruz nous disait qu'un récent sondage au Royaume-Uni montrait que même les électeurs ayant voté contre le Brexit lors du référendum s'étaient résignés à ce retrait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus dire qu'il s'agit là grossièrement de 48% d'électeurs contre 52, car parmi les 48% qui ont voté pour le maintien du pays au sein de l'Union européenne, ce sondage prouve que la moitié d'entre eux s'est résigné et accepte désormais ce retrait. À moins d'un événement inattendu, le Brexit est donc inéluctable et d'ici 2 ans, le Royaume-Uni va vraiment quitter l'Union européenne.
Alors Theresa May, pour les conservateurs, qui a donc joué mais perdu en partie, du côté des travaillistes maintenant, Laetitia Constant, le chef du parti travailliste, c'est Jeremy Corbyn, et on constate qu'il a attiré beaucoup de jeunes électeurs avec sa personnalité un peu excentrique et puis ses valeurs qui correspondent aux attentes de la nouvelle génération. Est-ce qui peut expliquer ce vote de défiance contre les conservateurs?
Oui, ça peut expliquer vraiment, Philippe. Jeremy Corbyn a évoqué des thèmes concernant de très près les jeunes britanniques. La perte des avantages de logement pour les moins de 25 ans, le manque de jobs, de travail, l'augmentation monumentale des frais de scolarité des universités, tout ce qui amène l'incertitude sur leur avenir, qui est un programme qui a sans doute attiré ces jeunes électeurs, et il veut vraiment améliorer leur vie. Et ces 10 dernières années, ces jeunes étaient vraiment un peu dans le désarroi. En plus, même si Corbyn a 68 ans, il a une attitude vraiment très cool. Il est végétarien, il est contre les guerres, il manifeste avec des associations et il est contre les Brexit. Tout ça attire les jeunes qui s'identifient à lui. Un sondage du journal Guardian auprès des 18-34 ans montre que leur principale motivation d'aller voter, c'est Corbyn. Dans les dernières législatives, en 2015, 43% des jeunes ont voté Labour et 27% pour les conservateurs.
Les jeunes qui ont massivement voté hier, beaucoup d'entre eux étaient inscrits sur les listes électorales. Ça, c'est nouveau, hein?
Oui, et cette année, c'est un record. Plus de 246 000 jeunes se sont inscrits, bien plus que pour les référendums de Brexit et les législatives de 2015. The Guardian, encore, a interrogé ces jeunes qui avouent s'être engagés dans la politique, motivés par leurs difficultés financières, la menace terroriste et les Brexit.
Revenons, Raphaël Morane, sur les attentats qui ont visé de nombreux jeunes, d'ailleurs, victimes, oui. Donc à Manchester comme à Londres. L'auteur de l'attentat de Westminster, celui de Manchester, était déjà connu des services de police britanniques. Ils avaient été dénoncés pour leur dérive radicale. Du coup, ce n'est pas l'efficacité de la surveillance qui est en cause, mais surtout les moyens, finalement.
Oui, l'un des assaillants du pont de Londres apparaissait même dans un documentaire de la télé Channel 4. On le voyait prier devant un drapeau de l'État islamique en plein Londres, dans un parc. Le sujet, du coup, de la menace terroriste est entré dans la campagne électorale, vous l'avez dit, Miguel, puisque Jeremy Corbyn a critiqué Theresa May pour avoir réduit les effectifs policiers de 20 000 agents lorsqu'elle était ministre de l'Intérieur entre 2010 et 2016. Donc, selon les services de sécurité britanniques, aujourd'hui, la Grande-Bretagne compterait environ 23 000 sympathisants radicaux et 3 000 djihadistes potentiels, donc ils sont suivis de très très près. Salman Abedi, l'attaquant de Manchester, celui de qui s'est fait exploser pendant le concert d'Ariana Grande, faisait partie de cette liste de 20 000 noms de sympathisants radicaux connus, mais pas forcément surveillés de près. Il y a donc aujourd'hui une vraie difficulté pour les services de renseignement britanniques à surveiller tous ces suspects.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce qui se passe en Grande-Bretagne en cette fin de semaine. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
This is Radio France International.
De Paris, RFI, $30.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Intéressons-nous à des sujets particulièrement traités par les rédactions en langue étrangère de RFI. La corruption est toujours au cœur de la scène politique du Brésil. Cette fois-ci, c'est le président Michel Temer qui est en cause et risque sa place. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers la capitale Brasilia, où 7 juges du tribunal supérieur électoral doivent décider de la validité de l'élection présidentielle de 2014. À l'époque, Laetitia Constant, il était colistier de Dilma Rousseff dans le cadre d'une campagne qui aurait été financé illégalement par l'argent issu de la corruption. Qu'est-ce qui peut se passer précisément dans les prochaines heures, Laetitia Constant, Temer? Peut-il vraiment tomber?
Bien, il y a un scénario étonnant quand même, parce que Dilma a été destituée l'année dernière, accusée de maquillage des comptes publics, et aujourd'hui c'est Temer qui est au bord de l'abîme. D'ailleurs, il est aussi mis en cause dans d'autres affaires de corruption. Pour expliquer aux auditeurs, s'il y a eu financement avec l'argent sale pendant la campagne de Dilma et Temer, l'élection présidentielle de 2014 est annulée et des nouvelles élections doivent être réalisées. Il y a des preuves de l'existence d'une caisse noire, qu'au Brésil on appelle caisse 2, avec de l'argent non déclaré. On attend une décision ce vendredi et peut-être Michel Temer a une légère chance de s'en sortir parce que 2 juges de 7 juges du tribunal électoral ont été nommés par lui et pourraient aider à l'innocenté. Par contre, la position du rapporteur du tribunal, Herman Benjamin, est sans ambiguïté, on l'écoute.
Le caixa 2 puro, sozinho,
Quelle est son explication?
Alors, il dit que la seule preuve de l'existence d'une caisse noire amène déjà à une des demandes initiales de ce procès, la cassation. Le rapporteur justifie sa position pour considérer qu'il y a eu des abus de pouvoir économique et politique. Il va plaider donc pour la destitution de Temer. Et puis, les autres 6 ministres auront 20 minutes chacun pour voter. Autre chose, aujourd'hui, il y a un système de délation primée au Brésil. Ça veut dire on va en taule, on dénonce et notre peine est réduite, voire annulée. Beaucoup d'hommes d'affaires et des politiques sont dans ce cas, dans la prison. Et Temer aussi est cité par plusieurs d'entre eux. Mais ces délations ne seront pas prises en compte par ce tribunal, Philippe.
Si le tribunal électoral se prononce pour l'invalidation du mandat Temer ou qu'est-ce qui peut se passer au Brésil?
Dans ce cas, Michel Temer et Dilma Rousseff seront inéligibles pendant 8 ans et Temer perdra son mandat de président. La Constitution prévoit des élections directes s'il manque 6 mois pour le président finir son mandat. Cependant, si le chef d'État est au poste pour une période inférieure à 2 ans, la Constitution prévoit des élections indirectes sans le vote populaire. Un d'entre eux peut aussi être condamné et l'autre pas, perdant ainsi son éligibilité pour 8 ans. Ou simplement, ils peuvent être acquittés sans plus. Mais je tiens à dire que ce que c'est en jeu au Brésil n'est pas seulement le mandat Temer Dilma, mais c'est l'avenir politique du pays, Philippe.
Alors la France, elle a des intérêts économiques au Brésil. Beaucoup d'entreprises sont installées là-bas. Est-ce que cette crise politique menace leurs intérêts, peut avoir un impact sur les investisseurs?
Absolument. Le ministre de l'économie du Brésil est à Paris. Il s'est réuni hier avec 30 entrepreneurs de l'industrie pharmaceutique, bâtiments, transports, entre autres, qui ont exprimé son inquiétude sur notre instabilité politique.
Non, évidemment, avec les notices, les questions politiques, etc. Agora, et non, et com a possibilidade de prosseguimento da agenda econômica.
Alors, qui vient de parler?
Voilà, le ministre Henrique Meirelles confirme que les investisseurs français sont inquiets avec les notices politiques et surtout avec la continuité de l'agenda économique et les réformes. Il a admis que dans toutes les réunions auxquelles il a participé, la crise politique a été abordée, même si sous l'angle économique.
Voilà ce qu'on peut dire au jour d'aujourd'hui sur cette crise politique qui n'en finit pas de secouer le Brésil.
RFI.
Les Portoricains votent, eux, après-demain, pour se prononcer sur le statut politique de leur île par rapport aux États-Unis. Alors, l'île Porto Rico est officiellement un État libre, associé aux États-Unis, mais la crise financière a relancé le débat sur le statut de ce pays. Raphaël Moran, votre rédaction, la rédaction Amérique latine, suit ça de très près.
Oui, le gouverneur de Porto Rico soumet par référendum donc ce dimanche une proposition pour que Porto Rico en finisse avec ce statut politique hybride qui fait de lui un État indépendant, mais sous la coupe des États-Unis, puisque les Portoricains ont la nationalité américaine, mais ils ne votent pas aux élections. Alors ce dimanche, dans l'isolement, ils auront 3 choix, soit maintenir ce statut, soit devenir totalement indépendant, donc se détacher des États-Unis, ou alors, troisième proposition, devenir un État américain à part entière, le 51e État.
Et que veut le parti au pouvoir?
Alors le parti au pouvoir souhaite que l'île devienne justement un État américain comme les 50 autres, pour pouvoir bénéficier du secours de Washington, des fonds fédéraux, du système social américain, parce que l'île est dans une situation financière catastrophique, un scénario un petit peu à la grecque, avec 70 milliards de dollars de dette public, une dette impossible à rembourser à court terme et à moyen terme non plus. Le pays est au bord de la faillite et pour l'instant, il ne peut pas bénéficier de la loi américaine qui protège les villes ou les États en banqueroute. Conséquence, eh bien, Porto Rico n'a d'autre choix que de se placer sous la tutelle financière américaine. C'est en fait une junte de supervision fiscale qui a été nommée par le Congrès américain qui décide aujourd'hui de la politique économique de l'île et qui impose des coupes financières terribles. Dans l'éducation, on ferme des écoles et des coupes aussi dans les retraites et dans les salaires des fonctionnaires.
Raphaël, ce n'est pas la première fois que Porto Rico organise un référendum sur son indépendance, c'est même la 5e fois.
Oui, il y en a eu dans les années 60, un autre référendum dans les années 90. Les électeurs ont par 3 fois réaffirmé leur souhait de garder leur statut actuel. Et puis en 2012, une majorité relative d'électeurs se sont montrés favorables à l'intégration de Porto Rico dans la nation constitution américaine. Mais les référendums, en fait, sont sans valeur juridique. Washington conteste la portée de ce résultat du dernier référendum. Cependant, cette fois, le panorama politique est différent. Les principaux partis politiques d'opposition appellent à boycotter les scrutins. Donc, en fait, l'initiative du gouvernement prend de l'importance. Elle pourrait être majoritaire. Finalement, les partis d'opposition sont contre ce qu'ils appellent une américanisation de Porto Rico.
Alors, vous avez consulté les derniers sondages. Qu'est-ce qu'ils prédisent pour dimanche ?
Eh bien, le oui à l'annexion de Porto Rico, à l'absorption de Porto Rico par Washington pourrait l'emporter assez nettement. C'est ce que nous a dit Efraín Vázquez, professeur de relations internationales à l'université de Porto Rico.
Aquellos que van a votar, yo diría una gran mayoría de los que van a votar.
Alors, Efraín Vázquez, qu'est-ce qu'il vous apporte?
Il nous explique qu'une majorité de gens qui vont aller voter ce dimanche le feront en faveur de l'annexion, dans l'espoir que si Porto Rico s'intègre aux USA, eh bien, il en découlera une injection massive de fonds fédéraux. Sauf que, il conclut avec cette idée très importante, cela va à l'encontre de la politique actuelle de Donald Trump, qui donne plutôt dans les coupes budgétaires du secteur social. À noter d'ailleurs que si le gouvernement portoricain remporte son pari, il devra ensuite convaincre le Congrès américain d'intégrer formellement l'île à la nation américaine pour qu'elle devienne le 51e État.
Et bien évidemment, le résultat de cette consultation électorale à suivre sur l'antenne en espagnol de RFI avec Raphaël Moran. L'année scolaire touche à sa fin en Europe avec le bac en ligne de mire pour les lycéens. Alors ils râlent parce qu'ils ont trop de travail, ils stressent parce qu'ils ont un examen à passer dans les prochaines semaines. Mais quoi qu'il en soit, bien ils ont la chance de bénéficier d'un enseignement dans de bonnes conditions. Ce qui n'est pas le cas en Guinée-Bissau, Miguel Martins. Première chose, les cours ne sont pas tous assurés, loin de là.
Tout à fait Philippe, les grèves s'enchaînent. À ces mouvements récurrents se sont ajoutés des épisodes d'instabilité politico-militaire, voire l'absentéisme dû au rituel d'initiation. Et c'est l'avenir de bien des jeunes bissau-guinéens qui est en cause. Le ministre de l'Éducation nous assurait ce mercredi que l'on essayait enfin d'inverser cette tendance. Je vous propose de l'écouter.
Une préoccupation énorme de ma part.
Alors, que vous a-t-il dit?
Donc, le ministre, le général Sanji Fati, nous assurait qu'il s'agissait là d'une très grande inquiétude pour les autorités, d'où l'effort qu'elles essayent pour créer des conditions et apporter des corrections au système actuel afin d'éviter de nouvelles grèves. Il y a 180 jours de cours planifiés, alors que souvent, on ne va pas au-delà de 75% de ce total, ce qui n'est pas assez. Cette fois-ci, on a pu obtenir le paiement des arriérés de salaire réclamés par les enseignants. On a pu mettre également sur pied le statut de l'enseignant qui était demandé depuis 2011. Du coup, le budget de ce ministère est passé de 8 à 25% des dépenses de l'État.
Alors au bout du compte, les jeunes de ce pays ouest africain sont handicapés par ce cursus scolaire très compliqué.
En effet Philippe, mais là encore, le ministre de l'Éducation veut espérer que ce sera de l'histoire ancienne. On le réécoute.
Le ministre des Finances a nous accompagner dans ce processus.
Donc, le général Sanji Fati prétend avoir été épaulé par le ministre des Finances en vue de ramener la sérénité requise pour mettre fin à ces cycles de grève. On vit dans un monde globalisé. La Guinée-Bissau est donc insérée dans l'espace de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Or, évidemment, il faut que ces ressortissants puissent être à la hauteur de leurs voisins. De surcroît, la génération à venir doit être beaucoup mieux préparée que par le passé pour faire face aux nouveaux défis et participer également au développement du pays et de la région tout entière.
Alors il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que cette semaine a été levée une énième grève observée durant deux semaines par les enseignants, mais les cours tardent à reprendre. Pourquoi Miguel ?
Voilà, d'après la Confédération des élèves de Guinée-Bissau, là la faute reviendrait non pas aux enseignants mais aux traditions animistes. Je vous propose d'écouter Fidel Iska qui est le président de cet organisme.
Uma outra parte tem a ver com questões de número dos estudantes que estão a fugir, tendo em conta
a situação. Quelle est l'analyse de Fidel Iska?
Il nous disait que différents rituels d'initiation se déroulent actuellement dans l'intérieur du pays, notamment des circoncisions de jeunes garçons. 60% des élèves seraient donc absents, tout simplement, des cours d'école. Cette tradition coïncide donc avec le calendrier scolaire. Voilà quelque chose qui devrait être revu pour que ces cérémonies ne se chevauchent plus dans le futur avec la période de cours. Il faudrait donc planifier à nouveau le calendrier scolaire, je disais, de cette année, permettant de rattraper toutes les périodes sans cours.
Miguel Martins de la rédaction Lusophone. Et puis, comme nous sommes très latins aujourd'hui dans Accent du Monde, sachez que le prix reportage RFI en espagnol, destiné aux étudiants en journalisme de moins de 30 ans, en cours de formation en Amérique latine et dans les Caraïbes, eh bien, a été décerné à Diana Fuentes. Elle est étudiante à l'université de San Carlos qui se trouve au Guatemala. C'était Accent du Monde. Merci pour votre attention. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.
RFI.